Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est officiel, c'est la rentrée. Les résolutions bronzées, les récits de vacances salés, l'entrain, l'espoir, un nouvel élan, une nouvelle grille sur France Culture, du sang neuf ou rafraîchi. Cette année, dans Les Pieds sur Terre aussi, il y aura plein de nouveautés, des bonnes histoires, de nouvelles séries et des anciennes qui continuent, comme le journal breton, des feuilletons fantastiques sur les élections, des séries fantaisistes, une enquête entre la France et l'Algérie, des nouvelles formes d'écriture, des tentatives de récits différents et pas pareils, mais tout ça pour dire la même chose, rassurez-vous. En cette rentrée, on continue notre boulot de base, notre B2B, méthodique, documentaire sur la France invisible, la France d'en bas, la France des quartiers, les vrais gens, les pauvres, les autres, appelez-les comme vous voulez. C'est la rentrée pour nous, pour vous peut-être, mais pour eux c'est la routine. Rien de neuf, hélas, l'habitude, la rengaine, des chiffres plus ou moins truqués qui tombent chaque mois plus déprimants, des entretiens qui foirent, des questions sans réponse, des coups de fil qui sonnent dans le vide. À la rentrée 2016, les demandeurs d'emploi sont toujours aussi nombreux. En juin, ils étaient même plus nombreux qu'en mai, 18 000 chômeurs de plus malgré 340 200 radiés ce mois-là. De l'autre côté du guichet, chez les conseillers de Pôle emploi, la pression est énorme pour faire baisser ces chiffres. L'engagement présidentiel numéro 1, la promesse de François Hollande, le sine qua non, sans quoi il ne se représentera même pas. La pression est grande, mais les moyens humains diminuent, ils se rationalisent, ils s'automatisent, mais il faut pourtant produire. Selon Canard Enchaîné, par exemple, une note interne aurait été diffusée récemment au cadre de Pôle emploi, dans laquelle la direction leur donnerait l'instruction de faire passer d'ici au 31 décembre 2016 500 000 chômeurs en formation professionnelle. Sachant bien sûr qu'un chômeur en formation professionnelle n'est plus comptabilisé comme chômeur. 1 milliard d'euros, toujours selon l'hebdomadaire satirique, aurait été débloqué pour financer ce plan. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, donc c'est la rentrée à notre façon, avec un petit tour chez Pôle emploi pour prendre la température d'une France dont le chômage serait le problème principal, un thème de campagne. En tout cas, c'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. Allez, c'est reparti et c'est un reportage de Pascal Pascariello.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Bénédicte. Je travaille au sein de Pôle emploi dans une agence située dans la région bordelaise. Et j'effectue donc le métier de conseillère indemnisation depuis 2003 déjà. La mort programmée de l'assurance chômage, en tout cas dans mon métier, c'est ce que je suis en train de vivre. Moi, bon, voilà, ce qui me fait rester à Pôle emploi, c'est quand même pas uniquement alimentaire. Il y a quand même derrière une mission de protection sociale, voilà, à laquelle je suis vraiment, vraiment attachée. Donc les missions d'assurance chômage, c'est pas rien. C'est ce qui fait que notre société, elle puisse aussi continuer à tourner pour les gens qui sont en rupture professionnelle, souvent subies. Or, en fait, moi, ce que je vois, et c'est ce que je vis très mal, et c'est pour ça que je ne sais pas comment demain je vais vivre ça, mais ce que je vois, c'est que cette mission, en fait, elle n'est plus souhaitée à Pôle emploi. Ce que je vois, c'est que la machine, depuis mars, fait mon métier, me le confisque, et que bah, ça, ouais, c'est sûr qu'on n'en sort pas indemne, et que demain, si tout ça est sous-traité et disparaît de Pôle emploi, moi, j'ai du mal à me projeter. J'ai vécu un vrai épisode d'épuisement professionnel, d'abord parce que je voulais absolument bien faire mon travail et qu'on ne me donnait pas les moyens, malgré en fait le fait de le faire remonter, et pas toute seule. Moi, j'ai aussi des collègues qui sont dans la même logique, mais à force de ne pas être écoutée, donc c'est très frustrant. J'étais amenée à faire des semaines de 40 heures, 42 heures, Et je pensais Pôle emploi, je pensais mon travail à tout moment de la journée sans que mon esprit se repose. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que nos problèmes sont sans fin. C'est-à-dire que nos retards de traitement sont quotidiens, on n'arrive jamais à juguler ça. La charge de travail, donc les dossiers qui s'empilent, alors maintenant on ne les voit plus parce que c'est dématérialisé. Mais quand on les voyait, donc on voyait ces piles de dossiers s'accumuler, donc c'était une image forte, et quand on n'arrive plus à s'enlever ça de la tête, donc c'est vrai qu'à un moment donné on devient malade du travail et puis malade aussi de voir les demandeurs d'emploi pas toujours bien traités. Voilà, je m'enfermais en fait. D'ailleurs à ce moment-là je parlais, enfin il y a eu une période où je m'étais coupée de toute communication auprès de mes collègues, donc le matin j'arrivais, j'allais dans mon bureau, je mangeais pas et je faisais que traiter mes dossiers, submergée par cette charge de travail. Et en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que c'est pas en faisant plus, toujours plus, qu'on va juguler la charge de travail. La solution, elle est ailleurs. Donc il m'a fallu aller au-delà de mes limites pour comprendre que la solution, elle n'est pas uniquement dans une prise en charge individuelle et de prendre tout sur ses épaules, même si il faut continuer à le faire, parce que moi, faire mon travail de manière impersonnelle, je ne peux pas. Voilà, je m'y investis, j'y mets beaucoup de cœur, mais en même temps, il faut que la direction prenne ses responsabilités et mette du personnel en face des besoins. Donc est venue au mois de mars l'automatisation des services. Donc une personne qui souhaite s'inscrire et qui dépose une demande d'allocation chômage ne peut le faire aujourd'hui que par Internet. Donc elle va saisir en ligne sa demande d'allocation chômage. Il peut y avoir jusqu'à 70 grilles à remplir. Et donc les demandeurs d'emploi se retrouvent désormais seuls face à la machine. Avant, ils avaient un entretien indemnisation avec un conseiller qui pouvait leur expliquer quoi déclarer pour obtenir les droits associés. Et nous, bien souvent, aujourd'hui, quand on récupère les dossiers, on scrute un petit peu le passé professionnel, on se rend compte qu'il manque plein d'éléments et que les gens passent potentiellement à côté de leurs droits. On ne va pas pouvoir éplucher toutes les erreurs. Les erreurs qu'on va pouvoir identifier, c'est celles qui sont remontées par les demandeurs d'emploi. Or, encore faut-il que le demandeur d'emploi ait conscience qu'il y ait une erreur de traitement par Pôle emploi, ce qui n'est pas évident si on ne connaît pas la réglementation de l'assurance chômage. D'où l'importance de continuer cette relation humaine. Et au niveau de la direction, on nous prend pour plus bête certainement qu'on est. On nous explique que de travailler demain uniquement par mail, on augmente la personnalisation du suivi. En étant coupé d'une relation humaine avec les demandeurs d'emploi. Et il faut y croire, c'est ce qu'on nous explique. Il faut y croire. On nous balance un film avec des mots qui sont répétés sans arrêt. Simplification, personnalisation, simplification, personnalisation, simplification du traitement et personnalisation de la relation, jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. La machine, qui a un nom, c'est NPDE, Nouveau Parcours Demandeur d'Emploi, donc a pris la main sur mon métier, puisque sans qu'on ait été préparé quand même. Ce qui nous arrive là, c'est ce qu'appelle la direction le virage digital. Mais c'est présenté comme une religion, il faut y croire. C'est-à-dire que peu importe si c'est pas humain, peu importe si c'est quelque chose qui est en conflit avec ses propres valeurs, peu importe si c'est pas adapté, parce que à la limite, si c'était adapté, bon, peut-être que ça me ferait réfléchir. Mais ce que je vois, c'est que ça augmente la galère des gens, ça augmente notre quantité de travail. On travaille que sur du négatif, c'est-à-dire que sur des réclamations, en reprenant sans arrêt les dossiers. Donc non, c'est... Enfin, moi, je ne souhaite pas entrer en religion. Ça arrive souvent, donc on a des cas, on a un petit peu des cas d'école. Donc, si un demandeur d'emploi ne rencontre pas un conseiller pour regarder son dossier, du coup, il va être amené à rembourser son trop perçu alors qu'il n'est pas dû. Un trop perçu, donc que Pôle emploi donc, a donc versé trop d'argent par rapport à une situation déclarée. Et bien souvent, on est amené à annuler le trop perçu parce qu'en réalité, il n'est pas dû. Or, aujourd'hui, quand ils ne rencontrent pas de conseiller indemnisation, c'est clair que pour beaucoup, ils doivent rembourser des trop perçus qui ne sont pas dus. Personnellement, j'ai fait remonter ces situations. Je ne suis pas la seule, hein, mais voilà, ce qu'on m'a répondu, c'est qu'à un moment donné, on a des indicateurs, on a des objectifs à atteindre. Et l'objectif aujourd'hui qui m'est demandé en tant qu'agent, mais voilà, c'est pas d'empêcher ces trop perçus à tort, c'est de les recouvrer. Il faut que 70% des trop perçus soient recouvrés. Ce qui me sauve dans ce contexte, en fait, c'est que face à cette injustice, je fais en sorte que, quand je travaille, de vérifier chaque trop perçu. Mais après, on est face à un traitement de masse aussi. Enfin, face aux milliers de trop perçus qui sont déclenchés, mon action, enfin, c'est une goutte d'eau. À un moment donné, ça peut faire péter un boulon, mais après, il faut vivre avec. Enfin, il faut continuer à travailler. Avec ça. Et là, moi, c'est un gros point d'interrogation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces nouvelles modalités ne sont pas totalement assumées. Moi, c'est ça aussi qui me gêne. C'est-à-dire que quand on m'a expliqué la mise en place, en fait, de l'automatisation et puis la fermeture des agences l'après-midi, d'ailleurs, ce mot est interdit. Hein, on ne doit pas parler de fermeture l'après-midi, on doit parler d'accès libre le matin. Enfin, vous voyez, on a toute une série de vocabulaire à respecter. Donc, il y a même une volonté d'emprise de vocabulaire qui est quand même aliénant, moi, je trouve. Enfin, en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui... Enfin, dire aujourd'hui qu'après-midi, on est fermé, c'est presque même un acte de résistance. Parce que, en fait, même jusque dans le vocabulaire, en fait, on est brimé puisqu'il y a une série de mots à employer. Et donc, justement, quand on a fermé les après-midi, il y a eu des consignes de vocabulaire vis-à-vis des demandeurs d'emploi à tenir. Moi, il me semble que l'ouverture de l'après-midi est possible parce que ça, aujourd'hui, quand on ferme les portes l'après-midi, ça demande autant de personnel que quand on les ouvrait. Hein, puisqu'il faut une personne, tenez-vous bien quand même, hein, il faut quand même une personne pour ouvrir la porte. Donc aujourd'hui, alors qu'on a des compétences, qu'on est qualifié, on me demande de tenir un poste qui est d'ouvrir une porte, alors que je peux être beaucoup plus utile au demandeur d'emploi en direct pour traiter ses besoins et lui apporter du service. Or là, on mobilise une personne uniquement pour ouvrir une porte, pour répondre à un interphone. Enfin, c'est humiliant. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout le discours de la direction aussi, parce que quand elle embauche des nouveaux collègues, bien souvent, elle leur dit, en guise de bienvenue, bienvenue dans le bon côté du guichet. C'est le discours d'accueil des nouveaux recrutés. En même temps aussi, c'est un discours aussi qui fait peur. Hein, c'est-à-dire, vous allez faire ce qu'on vous dit parce que Pôle emploi vous sauve et vous met dans le beau côté du guichet. C'est tellement visuel, c'est tellement... C'est une manière de créer une distance, voilà, symbolique entre le chômeur et le conseiller. C'est-à-dire qu'il y a la bulle Pôle emploi et puis de l'autre côté, il y a les chômeurs. Pour moi, en fait, il y a un déni d'humanité, en fait, et on fait tout pour plus voir les demandeurs d'emploi, en fait. Il y a une volonté de les mettre à l'écart, de les voir uniquement quand on les siffle, c'est-à-dire quand il y a une demande de rendez-vous de la part de Pôle emploi. Moi, ce qui m'attriste, c'est que Pôle emploi, qui est une institution dédiée à l'assurance chômage et à l'accompagnement à l'emploi, aujourd'hui, on lui fait décréter de ne plus recevoir les demandeurs d'emploi. Il y a quand même quelque chose qui va pas. Souvent, les demandeurs d'emploi viennent gêner nous voir en disant moi, je veux pas profiter, mais je leur dis, attendez, non, c'est pas un bénéfice ni un profit, c'est un droit. Vous avez travaillé, vous avez cotisé pour ce besoin. Et donc, le chômage n'est pas choisi, il est subi. Le poids de l'institution est tel que... C'est difficile de dire « je » parce que face à Pôle emploi, l'individu s'efface. Donc aussi bien les chômeurs que les salariés, on n'existe pas. L'individu, il est écrasé.
France Culture, les pieds sur terre.
Ben, je m'appelle Christophe, j'ai 33 ans et je suis conseiller à Pôle emploi en Picardie. J'ai débuté en 2007. Alors j'ai débuté à la NPE au départ, sur une structure d'insertion. qui s'occupait des gens les plus en difficulté, des gens qui étaient demandeurs d'emploi de très longue durée, des personnes qui avaient eu des accidents de parcours, des gens qui parlaient pas français, qui venaient d'arriver en France et qui cherchaient du boulot. Et puis à partir de 2012, je suis entré en agence, donc au départ, sur un poste de conseiller classique. Alors moi aujourd'hui, je me pose vraiment la question de mon utilité. Et d'ailleurs, on est beaucoup de collègues dans mon agence, et puis je pense ailleurs, à vraiment se poser cette question-là. C'est-à-dire que j'en discutais avec des collègues il y a quelques semaines, où je me demandais depuis quand j'avais pas proposé une offre à quelqu'un et que cette personne ait eu le poste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, on me demande de faire, par exemple, des mises en relation, c'est-à-dire de récupérer une offre et de la donner à un demandeur d'emploi, voire de faire de la mise en relation accompagnée, c'est-à-dire de pouvoir appeler l'employeur et de dire « voilà, j'ai cette personne-là ». Sauf que la difficulté, c'est qu'avec un portefeuille de demandeur d'emploi de 220 personnes, c'est très compliqué de connaître les gens. C'est vrai que ça, c'était une des différences avec ce que j'ai pu faire en insertion, où là, j'avais 50 personnes, donc je les connaissais très bien. Et puis en plus, aujourd'hui, je peux donner des offres où il y a déjà 150, 180 candidats, quoi. Donc quel est l'intérêt, ce genre de choses? Voilà, moi, je ne le vois pas forcément. Pôle emploi demande à faire plus pour ceux qui en ont plus besoin. Et puis en même temps, met tout sur Internet. Donc voilà, aujourd'hui, moi, j'ai plus l'impression d'être accompagnant sur Internet que d'être vraiment dans le conseil. Et puis voilà, on reçoit des gens à la chaîne où, voilà, si je vais recevoir 5 secrétaires dans la matinée, je peux leur proposer 5 fois la même offre où je sais qu'il y a déjà 80, 100 candidatures. Il y a quand même beaucoup de gens qui font des scandales à l'accueil, de gens qui jettent des chaises, enfin voilà, de gens qui veulent tout casser. Dans mon agence, il y a quand même régulièrement la police qui vient parce que les gens veulent pas s'en aller. Et puis après, l'événement, le gros événement marquant, c'était milieu de l'année dernière, donc milieu 2015. Donc moi, j'étais en réception de demandeurs d'emploi. J'ai donc une personne qui ne vient pas, donc j'ai un peu de temps pour gérer des mails, etc. Et donc j'ai des questions indemnisation. Et donc je descends à l'accueil pour voir un de mes collègues indemnisation. Et donc ma collègue indemnisation à ce moment-là est occupée avec une personne. Donc voilà, je sens que l'entretien est en train de se terminer. Donc la personne qu'elle recevait donc sort de ce bureau indemnisation, se retrouve dans la zone d'accueil et dit « Je pense que je sais ce que je vais faire ». C'était un monsieur, on la voit enlever son ceinturon. Et donc, la première pensée, parce qu'on est tellement habitué, c'est « il va revenir vers nous et il va essayer de mettre des coups de ceinturon à tout le monde », parce qu'on est quand même très habitué à ça. Et en fait, cette personne-là, non, se précipite vers l'escalier et commence à essayer de s'attacher voilà, pour se pendre à l'escalier avec le ceinturon. On a été 5 à essayer de le récupérer, donc il n'est pas passé par-dessus la rambarde, etc. Il n'y a pas eu... Donc on l'a tenu à 5, on l'a fait décrocher, arrêter de serrer l'escalier pour qu'il puisse s'asseoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là, son entretien avec l'indemnisation, cette personne-là devait 1000 ou 1500 euros, donc c'était une vraie somme, pour que les gens en arrivent là. Ce qui est compliqué, c'est que très vite, donc on essaye de l'écrocher, on le pose, les pompiers, ma direction, les pompiers prennent le relais quand ils arrivent, et puis nous, on se retrouve dans un bureau, et tout d'un coup, on est un peu tremblant, et on essaye de repartir sur « alors on va regarder des offres », et c'était un petit peu compliqué, parce que c'est des choses auxquelles on pense, c'est des choses auxquelles on pense le soir... voilà, en se disant qu'il y a des gens qui sont dans cette misère-là. Alors, je connais pas le temps de pendaison, mais j'imagine que ça prend un peu de temps et que, voilà, c'était juste complètement improbable que ça soit possible de le faire. Enfin, j'ai peut-être une autre image de la pendaison qui fait que, pour moi, j'ai juste empêché un incident à l'accueil, on va dire. Alors oui, un incident plutôt marquant, celui-là. Et puis derrière, on reprend le quotidien et on est pris voilà, dans l'enchaînement des mails.net qui continuent à arriver dans notre boîte. Et puis voilà. Aujourd'hui, quitter Pôle emploi, par exemple, en tant que conseiller, c'est quand même pas évident parce que on n'a pas forcément envie de se retrouver dans la situation des personnes qu'on a reçues tous les jours et que le marché de l'emploi est quand même très compliqué, qu'on reçoit aujourd'hui très peu de personnes qui disent bah, « voilà, je viens m'inscrire parce que ça fait... 30 ans que je suis dans la même boîte. Aujourd'hui, c'est quand même, moi, les gens que je reçois, c'est quand même des gens qui ont enchaîné des missions intérim, un petit CDD d'un an, un contrat aidé, et puis une nouvelle mission intérim. Enfin, voilà, il y a quand même, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail précaire. Et aujourd'hui, moi, quand je remplis des profils de demandeurs d'emploi, on est censé remplir le salaire minimum accepté Et 95% du temps, je remplis 9,67 € de l'heure, c'est-à-dire le SMIC. Et donc, bah oui, je suis au-dessus du SMIC. Je pense que la difficulté aussi, c'est... Enfin, moi, je me considère comme un privilégié, aussi parce que ça fait 9 ans que je reçois des demandeurs d'emploi et qu'on est quand même du bon côté du bureau.
Rosemarie Péchala, j'ai 66 ans, j'ai travaillé 28 ans à la INPE puis à Pôle emploi. Je suis partie de Pôle emploi en 2010 à l'âge de mes 60 ans, je n'ai pas fait un jour de plus, hein. Je suis partie en courant de Pôle emploi et depuis 2008 je m'occupe d'un site et d'un forum qui s'appelle Recours Radiation. Et ensuite, on a créé une association qui s'appelle Recours Radiation. Pour aller très vite, c'est la défense des chômeurs dans toutes les situations qu'ils rencontrent, en particulier avec Pôle emploi. Mais l'association Recours Radiation, elle, va au-delà, puisqu'on est allé au Conseil d'État il n'y a pas longtemps, en 2014 pour dénoncer la convention d'assurance chômage et on a eu une victoire qui était historique puisque ça n'avait jamais existé. La convention d'assurance chômage a été annulée le 5 octobre 2015. L'UNEDIC et l'État ont dû mettre la convention d'assurance chômage en conformité.
Rosemarie, vous décidez, vous me dites de quitter Pôle emploi en courant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous partiez en courant ?
Eh bien, je me suis retrouvée à revenir sur mon lieu de travail après un arrêt maladie. Et burn-out, hein, voilà. J'étais à mi-temps et j'avais, comme on dit, un portefeuille, c'est-à-dire un nombre de personnes à suivre hallucinant. Et j'y arrivais pas, quoi. Clairement, j'y arrivais pas. On avait appris à la NPE en tant que conseiller. Moi, je me suis retrouvée dans des formations où on nous apprenait que la perte d'un emploi, c'était un deuil à faire. Moi, j'étais quand même, je fais partie de cette famille de conseillers qu'on appelait à l'époque prospecteurs placiers, etc. Où justement il y avait des formations qui s'appelaient par exemple approche psychosociologique du demandeur d'emploi qui veut tout dire et rien dire, mais en tout cas où on avait un contenu qui permettait d'avoir une réflexion, où on se disait en face de nous on a des êtres humains et qui, même si ils ont une certaine dignité, même si ça ne paraît pas être des personnes affectées par leur licenciement, c'est possible qu'elles le soient. Eh bien, ça s'est perdu au fil du temps, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que on a été, eux, ils disent, dans leur langage proactif, moi, je pense que c'est agressif. C'est-à-dire que les gens, on leur laisse pas le temps de réfléchir, on les bombarde d'offres d'emploi. Ça rend dingue. Pourquoi ça rend dingue ? Parce que le harcèlement, il est pas seulement mis sur le chômeur, il est mis aussi sur le conseiller. Avec en plus le consentement de tout le monde, hein, l'État, les partenaires sociaux et tout ça. C'est-à-dire que Pôle emploi est méchant, mais il n'y a pas que Pôle emploi qui est méchant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un accord tacite de tous ces gens-là pour dire, allons-y, on file des grands coups de fouet à tous ces gens-là pour qu'ils se bougent les fesses. D'ailleurs, ils ont des prestations aujourd'hui qui s'appellent Active Emploi. Ça s'appelle Active Emploi. En fait, on n'active pas l'emploi. On active qui ? Le chômeur. Et on active qui ? Le conseiller. À qui on dit, tu vas prescrire cette prestation-là. Il y a des places, il faut les combler, et il faut que les chômeurs aillent au boulot. Et tu vas faire croire aux gens que c'est obligatoire, alors que la prestation active emploi n'est pas obligatoire. Ça, c'est aujourd'hui. Cette prestation active emploi, le cahier des charges, c'est-à-dire l'obligation du prestataire pour avoir des sorties positives, c'est-à-dire considérer que son action est positive, c'est 78 heures par mois. Voilà. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il trouve un boulot à quelqu'un de 78 heures par mois pour qu'il ait fait son job. Et il faut savoir aussi que ce prestataire-là, il commence à percevoir du fric à chaque fois qu'il a quelqu'un qui rentre dans sa prestation. D'accord ?
C'est le privé, hein ?
C'est bien sûr, ce sont des prestataires privés à qui on refile les chômeurs et à qui on leur dit « allez-y, trouvez-leur du boulot ».
Parce que c'est un harcèlement qui pouvait être bénéfique pour le chômeur.
D'abord, le harcèlement, c'est bénéfique pour personne. Il n'y a pas d'humanité dans la manière dont on se comporte. Pourquoi ? Par rapport et aux conseillers et aux chômeurs. Pourquoi ? Parce que inciter les chômeurs à trouver un emploi à tout prix, c'est absurde. C'est quand il n'y en a pas. Je veux dire, plus ça va, plus on demande aux chômeurs d'abandonner leurs choix, leurs désirs, leurs souhaits ou leur survie, parce que ce que la plupart des chômeurs qui recherchent un emploi recherchent, c'est un emploi à plein temps, pour pouvoir payer leur loyer, pour pouvoir bouffer, parce que voilà, ils ne mangent pas des moitiés de bistec ou des moitiés de pommes ou une pomme de terre à l'eau tous les jours. Ils ont des enfants, il faut bien les nourrir. Bref, ce n'est pas des emplois précaires qu'ils cherchent. Précaires et à temps partiel, etc. Hein.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, la rentrée à Pôle emploi, un reportage de Pascal Pascariello réalisé par Marie Placet. Évidemment, l'attachée de production, c'est Sandrine Chaperon. Nous ne pouvons pas imaginer autre chose ni quelqu'un d'autre. Merci aux agents qui ont aimablement et anonymement accepté de témoigner aujourd'hui, ainsi qu'à Rosemarie de Recours Radiation dans l'excellent journal en ligne Les Jours, auquel je vous encourage vivement de vous abonner. Découvrez également un grand reportage sur Pôle emploi, la vie Pôle emploi, par Alexia Eichen. C'est passionnant, c'est en ligne. Précipitez-vous, des commentaires, des réactions, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre, à nous partager, à nous follower, à nous liker. Bref, à parler de nous et à nous dire aussi ce que vous pensez de notre travail.